θα πέσει εκεί.
Senhor Presidente.
Monsieur le Président du Parlement, Frère Rodrigues, Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Madame Gabriela Baron, chers collègues, Monsieur les députés, Mesdames, normalement nous parlons anglais et français dans ces réunions, mais au Portugal, permettez-moi que notre langue, le portugais, soit parlée. Je commence par remercier le Dr. Fer Rodrigues de sa disponibilité pour être avec nous pour l'ouverture de ce 12e séminaire exclusif pour les groupes des 12+. Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas uniquement pour vous remercier d'être là. C'est aussi pour vous remercier. Pendant ces trois années de mandat, votre disponibilité pour appuyer toutes les initiatives de l'Union interparlementaire. Vous avez toujours démontré votre disponibilité, quelqu'un qui comprend l'importance de la diplomatie parlementaire et qui, dans la mesure des possibilités de l'Assemblée de la République, du Parlement, a toujours été présent de ses opinions, ses autorisations à tous les événements que l'UIP organise. Merci beaucoup de votre disponibilité. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, je disais tout à l'heure que c'est la première fois que vous vous déplacez ici dans cette qualité. C'est donc avec beaucoup de plaisir que vous nous accueillons ici à l'Assemblée, au Parlement, et je dois vous dire que la dynamique dont vous avez fait preuve comme président de l'UP laisse déjà sa marque. Cela veut dire que l'Union interparlementaire devra être différente à partir de votre mandat. L'Union interparlementaire est une organisation avec 125 ans et plus qui a déjà obtenu 2 prix Nobel, qui a une longue histoire, mais qui vivait des moments de ralenti, disons. Et maintenant, elle est en train de récupérer son rôle au sein de la communauté internationale. Et je vous félicite donc pour votre action et je vous remercie d'être venu et la disponibilité de venir passer ces 2 jours à Lisbonne. Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie d'être là. Nous avons préparé un programme intensif en acceptant le défi qui nous a été lancé. On nous a demandé d'organiser un séminaire sur les objectifs du millénium, du développement durable. En 2 jours, ce serait impossible de créer un programme qui puisse analyser en profondeur, avec un minimum de profondeur, tous les objectifs. C'est donc pourquoi nous en avons choisi 2, le domaine de l'économie et de l'innovation et le domaine de la santé. Afin de pouvoir montrer combien le développement économique peut être important, combien l'innovation peut être importante, afin d'atteindre une économie qui soit à disposition des citoyens, une économie qui ne soit pas seulement innover pour innover et qui ne tienne pas compte de la durabilité du développement et qui soit en même temps inclusive. La même préoccupation, le même souci est présent au 2e panel, car la science est importante, mais nous ferons des visites sur le terrain pour prouver que la science est importante pour résoudre les problèmes que tous les citoyens vivent. La science ne peut pas être uniquement pour la joie des scientifiques, pour essayer de gagner un prix Nobel ou produire des articles très importants, mais il leur faut être à la disposition des citoyens. Et La durabilité en santé veut dire que la science aide à trouver des formules de lutter contre la maladie et de prolonger la qualité de vie des citoyens. Et pour cela, il faut innover. Mais d'innover aussi d'une façon durable. Et durable du point de vue financier, car nous savons le poids dans les budgets d'État de tous nos pays. Nous avons aussi cru que nous ne devrions pas rester ici à la salle du Sénat pour parler avec des orateurs très experts, mais aller sur le terrain. Et c'est pourquoi, messieurs les députés, auront l'occasion de visiter deux centres d'excellence dans ces deux domaines. La Fondation Champalimaud, qui joue un rôle exemplaire à l'innovation pour la santé, et l'Institut supérieur technique, l'Institut supérieur technique, où l'innovation est liée à l'économie et pour que les entreprises puissent être plus efficaces et plus durables. Le long de ces deux jours, donc, nous allons vous montrer ce que nous avons de meilleur. Et en vous remerciant d'être là et en attendant votre apport dans la phase du débat pour que nous tous puissions y gagner quelque chose. Merci beaucoup.
Signora Presidente, tem a palavra.
Madame la Présidente, vous avez la parole.
President of the Assembly of the
Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, le Président du groupe politique, Monsieur Duarte Pacheco, merci beaucoup. C'est mon honneur d'être là à Lisbonne, une ville et un pays qui joue un rôle très important dans l'UIP. Je représente l'UIP. Et j'aimerais prendre de représenter l'organisation dans différentes organisations parlementaires en ce qui concerne l'immigration et tous les autres problèmes qui maintenant nous intéressent. Et merci beaucoup de m'avoir invité à être là au Portugal. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous au début de cet important séminaire. Nous comprenons la grande responsabilité que tout cela signifie et nous voulons comprendre l'importance de ce défi. Nous, il y a 11 ans de ça, nous avons 11 ans pour changer la planète. Tout l'ordre du jour, nous avons des feuilles de route pour marcher vers un monde plus inclusif. Quant au Parlement, est-ce que nous faisons suffisamment pour considérer la législation et la changer de façon à ce qu'elle devienne complètement inclusive? Est-ce que nous regardons nos budgets de façon à avoir suffisamment d'argent dans ces domaines dont nous avons tellement besoin? Est-ce que nous travaillons vraiment avec une comptabilité conforme aux besoins de nos citoyens? Et est-ce que tout le monde travaille dans le même sens pour aider ces pays? Cette année, notre organisation de l'Union interparlementaire fête ce 12e anniversaire. Et effectivement, que le monde est comme le monde était il y a 13 ans, avec les grands défis que les pères fondateurs ont eus et surtout avec les engagements que nous devons renouveler cette année. Le dialogue, les échanges interparlementaires, la coopération régionale sont absolument nécessaires. Mais maintenant, nous avons besoin encore plus Le multilatéralisme est contesté par plusieurs organisations et le Parlement montre la plus grande popularité parmi nos citoyens. Maintenant, la technologie, la communication, les institutions changent à une vitesse effroyable et nous essayons de gouvernement, de légiser pour un monde du 21e siècle, pour des institutions qui ont été fondées il y a 2 ou 3 siècles. Donc, c'est très un moment très important pour célébrer et le IPU, mais aussi pour être très clair quant aux responsabilités qui sont les nôtres dans nos régions, dans nos pays et évidemment envers la planète. Et l'UIP fait ces importants séminaires parce que nous voulons vraiment changer. Nous voulons faire la différence. Nous voulons être membres de l'UIP. Plus de parlementaires par centaines partout dans le monde veulent suivre dans la même direction et veulent mettre en œuvre cet ordre du jour. Déterminés à ne pas laisser qui que soit derrière et être sûr que nous pouvons changer cette planète à partir des parlements. L'année passée, nous sommes allés à Israël pour le séminaire de l'ODD, Innovation, Industrie et Infrastructure. Nous avons reconnu à ce moment que les différentes nations, les différents pays, surtout les liens entre innovation et autres ODD, comme par exemple l'eau, sont les choses de plus grande importance. Ces pays font face à un certain grand nombre de problèmes, mais nous ne pouvons pas être trop optimistes. De toute façon, il y a encore des groupes très vulnérables qui attendent des solutions. Nous aimerions tous reconnaître le rôle de leader du Portugal et ce qu'il fait pour ces séminaires ODD. Beaucoup des systèmes de santé sont mis en question et dans certains cas, quelques gouvernements ont décidé de laisser les politiques sociales en arrière. Et quand nous pensons à ce qui se passe dans nos sociétés, il y a certaines questions que l'État doit prendre en garde et faire très attention. Et l'éducation, la santé, nous ne pouvons pas oublier la responsabilité importante avec les familles qui sont représentées, qui se confient en nous et qui respectent un des plus importants services qui est l'accès à la santé. La santé et l'innovation, comme nous avons parlé à Israël, on peut maintenant profiter d'une grande occasion. La science, la technologie, tout ce type d'idées futuristes qui nous sont présentées maintenant. Nous avons de meilleures opportunités de sauver, d'être plus inclusifs en ce qui concerne la santé. Et nous allons voir ici, mais aussi dans la prochaine réunion à OIP sur les droits de l'homme et l'inclusion et l'immigration, que ce sont des problèmes de la plus haute importance. Nous sommes engagés à aller de l'avant avec la santé, mais aussi dans un système plus inclusif. Cela veut dire qui inclut enfants, femmes, adolescents, toute la population plus vulnérable qui existent encore et qui sont laissés en arrière. Nous allons, bien sûr, au cours des années prochaines, assister à de grands changements dans notre monde. La population totale vit dans des zones dangereuse. 68% de la population mondiale vit dans ces zones. Les environnements, les infrastructures sont importantes. Et j'aimerais donc encore remercier le président de prendre en main l'innovation et la santé qui sera très importante pour le groupe géopolitique et qui aura un apport aussi en ce qui concerne les prochaines résolutions à Belgrade. Merci beaucoup à tous d'être venus jusque-là et je crois que nous aurons un débat très important. Et
tem agora a palavra o Sr. Presidente da Assembleia.
Monsieur Eduardo Ferro Rodrigues. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Gabriela Cuevas Barron, Monsieur le Président du groupe géopolitique des 12 plus, Eduardo Pacheco, Monsieur le Ministre de la Science et de la Technologie de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les invités, Mesdames les invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi que je démarre ma très brève intervention avec, pour saluer la Madame Gabriela Cuevas Barron dans ce premier passage à l'Assemblée de la République portugaise. La présidente Gabriela Cuevas Barron, par les principes et valeurs qui président à sa direction et par son action parlementaire, politique et civique, de par les causes où elle a toujours lutté pour, mérite toute la considération des députés à l'Assemblée de la République, où je m'inclus. C'est une amie aussi de l'Assemblée de la République portugaise et de langue portugaise, ce qui renforce encore plus la satisfaction que nous avons de vous avoir parmi nous. Soyez la bienvenue dans notre maison. Une parole juste pour Monsieur Duarte Pacheco, que je considère et que j'estime, premier secrétaire du bureau de l'Assemblée de la République, mon bras droit dans les travaux du Parlement. C'est aussi le président de la délégation portugaise à l'Union interparlementaire et du groupe géopolitique des 12+. Merci, Monsieur Duarte Pacheco, par votre dynamisme et par le défi que vous m'avez lancé pour m'associer personnellement à ce séminaire et à ce débat d'une telle importance. La délégation de l'Union de l'Assemblée de la République à l'UIP a décidé de promouvoir ce 12e séminaire régional sur le développement durable. Et je le dis pour plusieurs raisons. Au départ, parce que l'Union interparlementaire, créée en 1894 et dont nous sommes membres depuis 1976, est une organisation de parlement d'États souverains qui partage les objectifs des Nations Unies, comme par exemple les objectifs du développement durable. Ensuite, parce que c'est en particulier à l'UIP, au Parlement membre, d'appuyer les efforts des Nations Unies en travaillant avec elles en collaboration étroite. Et c'est avec ce propos que nous sommes réunis ici dans le groupe des 12+. Une des principales missions de notre Parlement et de l'UIP, c'est le développement des institutions parlementaires et la recherche, pas toujours facile, de solutions par voie parlementaire à des problèmes globaux. Et bien sûr qu'avec le débat qui se réalise aujourd'hui, une autre de ces grandes missions est exécutée, susciter l'action des parlements et des parlementaires aux réponses de plus en plus exigeants et globaux avec lesquels nous sommes confrontés en tant que société, peuples, États. ce qui est de la plus haute importance. Deux objectifs seront débattus ce matin, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, et ensuite santé et qualité. Je ne vais pas anticiper le débat, ce n'est pas ce qu'on attend de moi, mais j'aimerais laisser quelques notes pour la discussion qui suivra, modérée par Ortiz Martins, autour de l'objectif santé et qualité. Cet objectif consiste à assurer l'accès à la santé de qualité et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. Cet objectif vise à assurer l'amélioration de la santé pour tous en réduisant les cas de plusieurs maladies, les morts par des maladies non transmissibles et aussi les comportements reliés à l'usage, à la consommation de substances illégales. C'est aussi la couverture universelle du système de santé. Elle existe depuis 1979, Service national de santé, Service national de santé. Il a été créé il y a plus de 40 ans, une des grandes marques du Portugal démocratique, un service national de santé universel, généralisé et qui tient compte des conditions économiques et sociales des citoyens. Tendanciellement, il est gratuit. C'est comme ça qu'il figure dans la Constitution portugaise. C'était un rêve de António Arnaud, le fondateur, disons, de ce service et de tous les professionnels de santé qui l'ont rendu possible. Dans ces 40 ans de démocratie, ce service a une action qui est bien visible dans la réduction de l'augmentation de l'espérance de vie, la réduction de la mortalité infantile, etc. Mais aussi dans la protection sociale, notamment dans la protection à la maladie et dans les soins de santé, sans que personne soit laissé en arrière. Nous sommes bien positionnés dans ce domaine et nous devons beaucoup à ce service national de santé. Nous avons donc beaucoup de défis à relever. Compatibiliser un accès universel à un service de santé de qualité avec les tendances démographiques et technologiques et les contraintes économiques et financières. Financer un service public de santé dans un contexte marqué par le vieillissement démographique, placer le service de santé dans un temps marqué par l'évolution technologique et scientifique, même en ce qui concerne les médicaments, etc., au niveau croissant d'exigence aussi, articuler le rôle irremplaçable de l'État avec le rôle du secteur privé. Perfectionner le rôle de l'État en tant que vigilant, que surveillant de tout cela. C'est à nous de savoir que nos citoyens scrutinent et analysent le rôle de ceux qui les gouvernent. Ce matin, je crois que ce séminaire n'épuisera pas toutes ces questions que nous débattrons ce matin. J'ai déjà beaucoup parlé. Je veux remercier votre présence à tous dans ce séminaire, très particulièrement la présence du vice-président Georges Lacan et mettre en valeur l'institution parlementaire et tous ceux qui représentent le pays au Parlement. Merci beaucoup.
Parlementaires, mesdames et messieurs, nous allons procéder à un changement maintenant. Ça a été un honneur pour nous d'avoir pu associer toutes ces personnalités à cette réunion.
Bon dia a todos.
Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette séance sur le niveau, l'innovation en tant que moteur du changement, sur l'ODD 9 relatif à l'industrie, à l'innovation et à l'infrastructure. Notre objectif, c'est de parler sur l'objectif durable de 9 qui est très important au niveau de nos économies. Et aujourd'hui, avec nos trois conférenciers, je suis sûre qu'on va pouvoir partager nos expériences et comment le Portugal travaille pour réaliser cette ODD 9 et donc sa réalisation devient très important au niveau des défis socio-économiques et encore une fois, c'est important de le souligner. Nous avons avec nous le ministre des sciences, technologies et de l'éducation supérieure et enseignement supérieur du Portugal. Il a aussi un doctorat de l'Imperial College of London, aussi prof à l'Institut supérieur technique. Il a été secrétaire de l'État et fait la promotion d'un réseau européen Step for You. Du côté droit, l'ingénieur Blas Costa, qui est directeur général du CITEV, qui travaille au niveau de la technologie du textile, membre d'un groupe d'haut niveau. L'industrie textile est extrêmement importante pour l'économie portugaise et c'est une industrie dans le passé qui était associée à une industrie très intensive au niveau de la main-d'œuvre. Et l'ingénieur nous parlera de son expérience, de comment le Portugal est en train de changer cette vision et comment le Portugal peut augmenter la valeur ajoutée des produits textiles et on peut dire de technologies sophistiquées qui sont très importantes avec une très grande valeur ajoutée. Et aussi, professeur Erlindo Oliveira, aussi un diplôme en génie électromécanique, aussi est passé par l'Université de Berkeley en Californie, professeur à l'Institut supérieur technique et aussi a été directeur de différentes entreprises et président de l'UNESC. Donc, on a trois conférenciers que je suis sûre avec leur expérience au niveau de ce thème qu'on discute va nous donner un peu plus d'informations sur cette réalité, va faire en sorte qu'on ait un débat à la fin de cette séance. Ministre?
Tous.
Bonjour à tous. Bonjour tous. Je vais parler donc en français si vous ne comprenez. Je vais partir en portugais. Une observation initiale au niveau de l'objectif du développement durable et ce qui a été suivi par le Portugal au niveau des égalités de genre, surtout quand on parle de l'industrie, l'innovation, infrastructure, on sait que l'égalité de genre est très importante au monde et au Portugal. Et j'aimerais commencer avec un exemple. Je pense que c'est très important au niveau du contexte mondial. Et certains de vous le savent, le Portugal a, pendant 3 ans, a le record mondial de jours qui ont été soutenus par les énergies renouvelables. 4 jours en 2016, 3 jours en 2017, 3 jours en 2018. Et cette question est très importante. Pourquoi le Portugal a pendant 3 années consécutifs, ce record mondial de 3 jours consécutifs qui ont été soutenus par les énergies renouvelables, en particulier associées à l'intégration des sources d'énergie éolienne, hydroélectrique, une certaine contribution solaire, avec son intégration dans le réseau électrique, dans un système qui est très compliqué au niveau de l'intégration de l'énergie durable, qui ne sont pas, comme on le sait, nécessairement compatibles qu'on l'usage, consommation, attitude des consommateurs. Donc, on a besoin de développer des systèmes complexes entre la production et l'utilisation électrique. Donc, c'est un exemple que je veux mentionner. Le Portugal a pu atteindre une pénétration, une utilisation fréquente d'énergie renouvelable au niveau de connaissances scientifiques, formation de personnes dans des systèmes complexes d'énergie. Aujourd'hui, l'intégration de cette énergie renouvelable au niveau de l'éolienne et hydroélectrique, le réseau électrique passe par des systèmes et en particulier le Portugal utilise cette capacité hydroélectrique, mais surtout par la capacité de la connaissance en intégrant des systèmes complexes. Et ce travail a été fait pendant les 2 dernières décennies, en particulier en étroite collaboration entre l'industrie, système scientifique et le système d'enseignement supérieur utilisant des compétences au niveau des systèmes complexes. Des systèmes digitaux pour intégrer les différentes technologies au niveau du développement de la durabilité. Donc, notre orientation au niveau des ODD passe par la connaissance et passe par la formation avancée de personnes et en utilisant l'intégration de différents contextes institutionnels, donc les entreprises qui distribuent l'énergie et l'interaction avec la connaissance. Et cet exemple est très important parce que, comme je vais mentionner d'autres aussi, mise en pratique les recommandations qui ont été faites en 2019 par le CDE d'une façon d'accélérer les ODD, les objectifs de développement durable, selon 3 axes. Un besoin au niveau d'un meilleur engagement pour préserver l'environnement, et cet engagement va passer par un meilleur engagement entre aussi un développement scientifique et la création de d'emplois qualifiés. Et en deuxième,
la nécessaire attention à des procédures d'innovation institutionnelle, sachant que les institutions les plus traditionnelles et les arrangements les plus institutionnels ne sont pas compatibles avec les objectifs du développement durable. Et c'est pourquoi l'OCDE a insisté dans la création de réseaux scientifiques et d'innovation. Et le cas dont je vous ai parlé a aujourd'hui l'idée de créer des domaines où plusieurs entreprises pourront collaborer. Et je vous en donnerai d'autres exemples. Un troisième axe, c'est l'utilisation de nouveaux systèmes d'observation et de sensibilisation, certainement associés aussi à des technologies de coûts assez modérés, sur base de satellites, mais aussi d'autres types de senseurs, et l'utilisation de compétences du type digital, du type numérique, où l'on puisse mieux observer pour mieux mettre en œuvre les objectifs. Ces aspects, ces 3 axes dont je parlais, qui sont tous centrés dans le cas que je vous ai présenté du Portugal avoir pu atteindre les objectifs du développement durable domine le plus grand nombre du nombre couvert par des sources d'énergie renouvelable peuvent nous conduire à d'autres exemples, à d'autres cas, et en regardant le Portugal dans sa position atlantique, nous pouvons développer un autre exemple clair de l'innovation des industries et des innovations pour le développement durable qui nous a fait développer une stratégie d'interaction atlantique basée sur 5 piliers que je vais brièvement décrire. Pour commencer, une stratégie claire pour des technologies de coût modéré pour l'observation de la Terre par biais de satellites d'orbite basse et peu d'impact environnemental, ce qui nous a conduit à développer aussi un régime légal adapté aux nouvelles technologies spatiales et à créer une nouvelle agence spatiale en articulation avec différents secteurs de l'administration publique. L'étroite articulation avec d'autres pays européens, avec des pays américains et surtout pays africains, nous a fait développer un centre international de recherche pour l'Atlantique, une institution véritablement en réseau qui intègre des institutions d'Afrique du Sud, de Nigérie, des pays de langue portugaise, mais aussi du Brésil, et de différentes institutions nord-américaines et naturellement de pays européens. Nous avons aussi développé une infrastructure qui est en cours, compétitif au niveau européen pour le développement d'un nouveau système de micro-lanceurs de petits satellites recourant à notre situation stratégique sur l'Atlantique afin de pouvoir avoir de nouveaux senseurs d'observateurs de la Terre. Cette articulation d'une infrastructure spatial, orienté vers des interactions espace, terre, océan et en recourant aux opportunités du développement et des transformations climatiques, en joignant toujours le développement scientifique à la création de l'emploi, nous a amené à baser ces trois actions en deux autres. D'une part, un programme que nous appelons New Portugal, partenariat Portugal, où nous développons des partenariats avec beaucoup de pays, avec des pays atlantiques notamment, mais avec d'autres aussi, pour renforcer notre position européenne dans un réseau que nous appelons PERIN, Portugal in Europe, pour renforcer les réseaux européens dans notre cadre qui est surtout basé sur un cadre européen ouvert vers le monde, bien sûr, mais ouvert aussi vers la coopération sud-nord-nord-sud. Là, nous avons un exemple de notre position claire sur les objectifs du développement durable et en particulier l'objectif aux Nations Unies ou les questions des infrastructures, notamment des personnes et des infrastructures humaines, la question des institutions, du besoin de continu d'innovation institutionnelle et la question des incentives toujours tournés vers le développement de la connaissance et de la formation de personnes liées à la création de plus d'emplois et d'un meilleur emploi. Merci.
Merci, Monsieur le Ministre. Je passe la parole à l'ingénieur Blas Costa, qui est le directeur de CITEV. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous pour partager certaines visions sur le thème qu'on est en train de discuter. Et je suis très content aussi parce que ceci est un moteur du changement et qui est très important au niveau des centres de recherche que je dirige. Une information avec le secteur textile et au Portugal et dans le monde.
É talvez dos setores mais estranhos.
C'est un secteur étrange parce qu'il est connoté avec une technologie très faible et aussi technologie très sophistiquée. Donc c'est facile d'identifier des images d'une confection et donc où le niveau de connaissance est très faible. Et c'est vrai que c'est possible de le faire. C'est possible de le faire avec un niveau de connaissance très faible. Mais ceux qui sont venus jusqu'au Portugal pendant ces journées sont venus dans un avion avec un moteur qui a été fait par Safran. Et ce moteur, donc, c'est fait différemment. Donc, c'est un secteur qui utilise une technologie plus faible ou plus sophistiquée. Mais ce secteur est très globalisé et très mondialisé. Et je ne vois pas au niveau industriel, je ne vois pas d'autres industries où les pays plus riches vont être compétitifs avec les pays plus pauvres. Donc, ils font partie du même marché. Il y a une relation de concurrence. C'est considéré le deuxième secteur le plus polluant. Donc, on n'a pas fait tous les calculs, mais j'aimerais être convaincue que ce ne l'est pas. Mais tout le monde sait que ce secteur est un secteur qui pollue énormément. Ce n'est pas un secteur potentiellement polluant, mais c'est un secteur dont les pratiques ont causé des dommages au niveau de l'environnement. Il y a une grande différence entre les pays développés et en développement. Et j'aimerais mentionner une référence faite par le ministre quand on parle de durabilité au Portugal. Je dis qu'au Portugal, qu'il y a des questions qui ne sont plus de bonnes pratiques et ce n'est pas possible au niveau ce qui est fait dans les rivières. Mais il y a des grands problèmes environnementaux qui ont à voir avec notre secteur et c'est très pertinent au niveau de la durabilité et de ce secteur. Ce secteur est un des plus pertinents au niveau social. Il y a des régions, des pays où l'importance sociale du secteur textile est très importante. Imaginez les pays du sud-est asiatique sans l'industrie textile, comme ils seraient différents. Et qu'est-ce qui se passerait avec certains pays de l'Est africain s'ils n'avaient pas trouvé dans le textile une possibilité de pouvoir changer la condition de vie de la population? Au Portugal, c'est très important. Mais c'est pas aussi important qu'au Bangladesh. Mais avec ce cluster de textiles qui se concentre géographiquement dans une seule région d'un pays ou dans une petite partie d'une seule région dans un pays, n'importe quel problème avec ce secteur textile, et on a déjà vu cela, aura un impact social qui sera très, très important. Et donc, c'est un secteur qui embauche le plus. Par exemple, au Portugal, l'embauche à peu près 10% des travailleurs de l'industrie transformatrice. Du point de vue économique, c'est aussi très important, soit pour les pays qui sont plus pauvres, soit pour les pays plus riches. Peut-être si je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de l'Allemagne comme un pays de textile? Vous allez me dire que ce ne l'est pas. Mais voilà, mais l'Allemagne est un des plus importants au niveau de l'industrie textile. L'Allemagne fait très peu de confection et n'utilise pas les pays de base beaucoup plus au niveau du textile et son application technique, mais c'est un secteur textile et qui est très important en Allemagne. C'est un secteur depuis que le nucléaire n'est plus une priorité des ONG, c'est disons, c'est devenu très important au niveau des ONG. Et très bien, c'est une industrie qui est contrôlée dans la planète par ces organisations et qui vraiment a fait un travail intéressant de joindre des acteurs importants ou les marques ou le détail est très important pour qu'ils puissent donc assumer certains engagements. Des engagements ont été signés et la plupart ont été développés, dynamisés depuis l'Europe avec une certaine efficacité qu'il faut prouver au niveau de la dernière, du dernier sommet de Copenhague. Après 10 éditions de cette conférence européenne sur la durabilité dans la mode, les résultats ne sont pas aussi enthousiastiques et tout l'effort qui a été mis au niveau de cette transformation, mais c'est un secteur, encore une fois, c'est un secteur qui est contrôlé et qui établit des engagements que beaucoup d'autres secteurs ne le font pas et dans la société avec ce type d'organisation. Néanmoins, je vais maintenant vous dire ce que je sens. Il existe beaucoup d'hypocrisie. Chaque détailliste
chamados
ont ce sustainability, ont ce CSO. Je me rappelais plus de la sigle en anglais. Qui n'acceptent pas de discuter ceux qui sont responsables pour la durabilité des marques et ceux qui sont responsables au niveau des achats, de les joindre. Quand un entrepreneur du Bangladesh dit « j'aimerais payer de meilleurs salaires à mes travailleurs, j'aimerais faire ce que mes acheteurs me disent de faire », mais ils changent le prix tous les jours et j'arrive pas à payer. Donc c'est cette hypocrisie avec ce qui existe entre les pays riches et pauvres est en train d'affecter très négativement les pays qui ont peu de ressources et aussi affecte négativement les pays avec plus de ressources, même si ça on ne le voit pas. Il y a des situations de dumping social qui se traduisent en dumping commercial et nous concentrons la richesse. Je ne sais pas si vous le savez, le markup. Combien de fois on multiplie le prix dans la production que pour mettre l'article en vente dans le magasin? Dans le fast fashion, le markup c'est 10 fois plus. Et c'est normal que ça soit 10 fois plus. Et nous sommes en train de dire que dans les magasins, on a des produits qui sont 10 fois plus le prix de production. Et on a de très 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 sérieux, on a de très graves problèmes de sociaux, une manque de sécurité, manque trop d'heures de travail, etc. Et tout le monde sait ce que je veux dire. Donc, avec cette hypocrisie, au niveau des achats, on voit aussi la pression qui est faite par ceux qui vendent ces articles. Ce sont les pays plus riches qui dominent la technologie de production, bien équipement. Ce sont ces pays qui dominent la production des chimiques et d'autres matériaux, d'autres. Une autre question serait et le Portugal. Qu'est-ce que fait le Portugal? Comment le Portugal maintient son industrie textile après? Il y a eu de différents aspects. En 2001, avec l'ouverture des marchés asiatiques, le Portugal a demandé une étude à une société américaine pour essayer de comprendre quelle serait la direction, quel serait l'avenir du secteur textile au Portugal. Et cette entreprise, cette société est venu présenter les résultats à d'autres sociétés et d'autres partenaires. Ils ont dit, on a deux scénarios. un est très négatif.
Le deuxième est très, très négatif. La perspective, ce serait de diminuer de 50% ou 80% en ce qui concerne le chiffre d'affaires au Portugal. Heureusement, rien ne s'est passé au Portugal. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous profitons d'une tendance de la société dans le sens de mettre en valeur les questions qui mènent à la durabilité. Cette idée de la durabilité, aujourd'hui, n'est plus une matière de scientifique, de fanatique ou d'activiste. Non, elle est dans le marché, qui achète notamment les marques, recherche des produits où l'on puisse prouver le niveau de durabilité. Et l'industrie, pardonnez-moi les politiciens et autres acteurs qui seront là, mais l'industrie est le centre névralgique pour la mise en œuvre de la durabilité. Subissant des pressions de plusieurs endroits, de plusieurs types, c'est à l'industrie de trouver des solutions, produire avec moins d'eau, avec moins d'énergie, avec moins de chimiques, ne pas lancer les produits chimiques dans les effluents, etc. Bon, comment dépasse-t-on tout cela? Pour commencer, le besoin. Ne croyez pas que ce qui est devenu déjà d'une étude de cas, qui a été l'évolution du textile portugais, du textile technologique par exemple, qui s'est passé parce que nous avons une capacité de formulation stratégique au-dessus de la moyenne. Non, nous avons eu besoin de faire. Il y a eu des conditions au Portugal, ça oui, qui ont trait au système, au développement scientifique et technologique, au l'état de développement des entreprises et la culture d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est allée étudier à l'étranger, qui connaît le monde et qui est retournée aux entreprises de famille pour les diriger différemment. C'est le besoin qui a obligé à ça et la durabilité sans un fort investissement en développement technologique, en innovation, n'existera pas. Et je peux déjà vous faire une liste de plusieurs domaines où il faut agir. Sciences et technologies des matériaux, génie des procédés et sciences et technologies de l'énergie, depuis sa production jusqu'à son stockage. Alors, le Portugal, voyons. Pour vous qui venez d'ailleurs, d'autres pays, l'expression Val do Ave ne vous dit rien. Mais pour nous tous, portugais, Val do Ave est une image de fleuve pollué, de personnes au chômage et d'entrepreneurs avec des Ferrari. Heureusement, c'est une image dépassée. Mais une image qui n'a rien à voir avec la réalité portugaise maintenant. Premièrement, parce que la loi a obligé au changement. C'est le seul pays d'Europe que je connaisse qui a installé un système intégré de dépollution et de traitement des eaux résiduelles du secteur textile qui fonctionne depuis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, dans la région textile, et à propos de cette activité, nous avons installé un système intégré de lavage des eaux de pollution. Le Portugal peut revendiquer un niveau de production textile très durable parce que le pourcentage d'énergie électrique consommée dans nos usines, et je ne parle pas des nombreuses qui ont installé des panneaux solaires, par exemple, la photovoltaïque, c'est une des plus fortes d'utilisation d'énergie renouvelable. Depuis 2009, où il y a eu une décroissance des affaires, comme cela se passe dans tous les secteurs et dans tous les pays, le Portugal a grandi en 50% d'exportation de produits textiles, d'habillement et d'autres. Mais il a augmenté de 50% en chiffre d'affaires par travailleur. Et c'est là que je veux vous insister. Augmenter 50% de chiffre d'affaires par travailleur, c'est la confluence de deux innovations. La première, c'est que le Portugal a dû travailler des produits plus difficiles, d'une plus grande valeur. Et la deuxième, c'est qu'il a dû devenir plus efficace, plus efficient dans sa façon de produire. C'est un pays industriel. Si nous constatons des 8 milliards de chiffre d'affaires de ce secteur, 200 millions uniquement d'euros de différence entre la production et le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si c'est juste ou non. Peut-être la différence devait diverger un peu, mais le Portugal, c'est vrai, continue à faire le même parcours d'un pays industriel. Cette croissance n'a pas été faite aux dépens d'acheter bon marché au Bangladesh pour vendre cher en Europe. Non. Quelle était donc l'évolution au niveau des produits? Clairement, des textiles et des habillements de grande technicité et aussi des produits pour l'industrie automobile. L'industrie textile portugaise est présente dans la production des meilleures marques de européennes et japonaises de voitures et l'affaire a augmenté de plus de deux chiffres. L'industrie automobile va grignoter sur les quotas des autres entreprises, mais cela correspond à 30% de ce secteur qui a tendance à augmenter. Et en parlant maintenant de durabilité. Pour commencer, les circonstances en ce moment, c'est le Macpour, ce sont les commerçants de nos clients qui demandent de la durabilité, des produits durables, avec beaucoup d'hypocrisie. Un peu durable est un produit qui a 5% de fibres recyclées, qu'on ne sait pas d'où elle est venue, ni ce qu'elle amène avec elle, ni comment on l'a fait et recyclé. Mais c'est un début. Durabilité, c'est quelque chose de plus complexe. C'est quelque chose de plus important et qui ne peut être fait qu'avec beaucoup de connaissances. Je dirais que la durabilité pour le Portugal et pour le secteur textile, c'est l'âme des affaires. Car nous sommes mieux préparés que nos concurrents. Les pays aussi préparés que nous pour la mise en œuvre de produits techniques sont encore très loin d'avoir la capacité de connaissance et de mindset pour pouvoir atteindre les objectifs de durabilité. Et je terminerai avec deux références. La première, sans un système scientifique et technologique d'un très bon niveau, le parcours qu'on a fait n'aurait pas été possible. Sans les universités qui ont fait un parcours sans précédent dans notre pays au cours des dernières années, sans un système de centre d'interface technologique et publicité, le centre technologique, l'industrie technologique et le centre de nanotechnologie et de matériaux intelligents ont joué un rôle absolument essentiel dans le secteur textile. Et sans l'existence de cet investissement, les choses n'auraient pas été possibles. Et finalement, je dois dire que de vendre des produits dans le marché, notamment des produits de mode, ne peut pas être fait uniquement avec un paradigme mental, uniquement industriel. Et on a fait une évolution énorme en ce qui concerne le service associé au produit. Aujourd'hui, une pièce d'habillement, il y a des entreprises qui offrent du lead time et il a la possibilité d'assurer les clients et de les garder. C'est une responsabilité de nous, des groupes comme ceux-ci, que de l'Union européenne, de regarder cette question pour comprendre ce qu'on doit faire localement pour améliorer le niveau de durabilité de la société, de l'industrie, etc., mais aussi un regard sur ce qui est le rapport avec d'autres régions, de façon à ne pas biaiser l'environnement de concurrence, de bonne concurrence entre les pays, afin d'assurer que nous pouvons tous développer dans un domaine où l'erreur d'un cause des problèmes à tous. La pollution en Chine cause des problèmes au Portugal. Et donc, il faut qu'il y ait une harmonisation et d'initiatives qui fassent en sorte que le développement durable soit une question de la planète avec chaque pays ayant sa part pour mettre en œuvre les solutions et pour les imaginer. Merci beaucoup. Monsieur l'ingénieur, pendant la partie du débat, on aura, non comme une menace la durabilité, mais comme une opportunité pour le Portugal, et je suis sûre que le débat sera approfondi. Et je passe la parole à Arlindo Oliveira, président de l'Institut supérieur technique.
Hola, bon dia a todos. Good morning, everyone.
Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous pour parler sur la vision d'importance de la science et innovation au niveau de ces deux objectifs, mais pas seulement ces deux objectifs. Et donc, j'aimerais dire qu'on sous-estime l'importance de la société de l'innovation technologique et des valeurs de la science et de la connaissance. Nous disons que c'est très important, que l'innovation est très importante, mais on voit ceci au niveau de concurrence économique, que l'innovation est très importante pour vendre, pour maintenir cette compétition. Donc, l'innovation et la science vont plus loin. Les valeurs de qui ont attrait à la technologie ont eu un impact sur la qualité de notre vie et que nous sous-estimons au niveau de la santé, la qualité de vie en général, les valeurs humanistiques, les valeurs de la société. Pour vous donner deux ou trois indicateurs, l'espérance de vie a augmenté, disons que ceux qui vivaient entre 29 et 89, il y a 200 ans, le taux de mortalité a été réduit par 50%. Tout cela est dû à la science et innovation. C'est une question de qualité de vie, santé, de vie des familles. Au niveau de l'avenir, on peut être certain que l'évolution positive de la technologie va continuer en augmentant l'espérance de vie et en réduisant aussi, la mortalité au niveau des maladies et augmenter la qualité de vie qui doit être encore apporté. On parle de durabilité et de l'avenir. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on ne peut pas sous-estimer l'importance de l'investissement au niveau de science, innovation et de la durabilité. Et quand on entend qu'il y a des interventions publiques et qu'une gestion doit engendrer une société durable, et en faisant des changements dans notre style de vie qu'on peut avoir donc une société où la pollution des mers, de l'atmosphère n'est pas un problème. Et cela n'est pas vrai. Il n'y a vraiment pas cet ajustement raisonnable au niveau de la qualité, qualité de vie qui peut le faire.
Le accord de Paris, pour si soi, sont bastante modestes.
Il nous faut aller au-delà des objectifs de l'accord de Paris si nous voulons éviter le réchauffement global de la planète. L'accord de Paris prévoit que chaque personne dans la planète consomme lance des tonnes de gaz à effet de serre vers l'atmosphère. La consommation normale d'une personne, c'est de 2 tonnes de 2,5 tonnes pour la préparation de la nourriture, 3 tonnes pour une voiture normale, 1 tonne pour une voiture électrique. Maintenir une vie relativement proche du style de vie que nous avons de vie est insupportable au niveau de l'accord de Paris. On pourra dire qu'une fraction grande de la planète ne vit pas dans ce style et on peut emprunter des tonnes de gaz à effet de serre au troisième monde, et c'est illusoire parce que la Chine est en train de se développer à une vitesse étonnante. Tous les pays se développent rapidement et nous ne pouvons pas penser qu'on peut émettre 20 tonnes aux dépens des autres pays. La solution, c'est 4 à 5 tonnes par personne. C'est un objectif extrêmement modeste. L'objectif sera de 0 tonnes. Et c'est là uniquement que nous pourrons en finir avec l'effet de serre. Il n'y a qu'une solution que nous ne voulons pas. Il nous faut développer de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies sont la seule solution parce que nous allons continuer à voyager, nous allons continuer à manger, à avoir des maisons chauffées en été, en hiver et refroidies en été. Mais ce n'est qu'un fort développement technologique peut mener à une société durable. Ce n'est pas compréhensible pour la société en général. Pourquoi une petite fraction du produit interne brut est au long terme en rapport avec l'éducation, et je vais m'y référer, au moyen long terme, c'est ce qui fera la plus grande différence pour toute la société. Il n'y a pas d'autre mesure pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qui ait un tel impact sur la qualité de vie. Il y a beaucoup de technologies qui sont engagées, qui, du point de vue d'au niveau, normalement, je parle de 3 idées fortes. Atomes, avec nouveaux matériaux, nanotechnologie, manipulation de matériaux au niveau nano et qui permettent beaucoup d'épargne au niveau de la cogénération d'énergie. Enfin, il y a d'autres questions de durabilité qui sont en rapport avec ça. Toute la question des nouveaux matériaux, des nanotechnologies. Les bits, c'est-à-dire la manipulation de l'information pour qu'on puisse utiliser les ressources de la manière la plus efficace possible. Le besoin de réseaux intelligents. L'importance d'utiliser les données d'une façon plus intelligente et de mieux utiliser les ressources et la manipulation des gènes avec tout ce qui se lie aux nouveaux médicaments, etc. Donc, mon argument, c'est que la science et la technologie ne sont pas uniquement importantes pour la durabilité future de la planète, sont décisives et non seulement en ce qui concerne ses objectifs pour l'éradication de la pauvreté, de la faim, de l'amélioration des conditions de santé et de propreté. Une énergie propre, les villes durables, une consommation responsable de, et la qualité de l'eau. Il nous faut aller au-delà, car une partie des problèmes que nous avons maintenant peuvent sembler ne pas avoir un rapport direct avec la technologie. Le problème des réfugiés, le problème des guerres, le problème même de la démocratie, si nous voulons, et le souci que nous avons avec les sociétés démocratiques, soi-disant, et qui, où les décisions sont plus populistes et moins rationnelles. Et David Deutsch disait que tous les problèmes sont causés par des connaissances insuffisantes. Et je suis pleinement d'accord avec cette affirmation. Tous les problèmes sont dus à des connaissances insuffisantes. Nous n'avons pas de technologie, nous n'avons pas de connaissances pour résoudre certains problèmes. Et j'ai déjà mentionné toutes les questions de technologie, de mobilité, de transport, même si les personnes adoptent des valeurs rationnelles, ne croient pas dans des mythes et des valeurs irrationnelles, ce qu'on verra, c'est que les choses seront plus pacifiques, les problèmes avec les réfugiés se réduiront. Et cela, nous l'avons observé le long des 200 dernières années. Nous avons beaucoup de pays du monde où ces problèmes sont très graves, mais ces problèmes sont causés par manque de connaissances essentiellement. Et l'investissement en éducation, sciences et technologies, ce ne sont pas uniquement importants. Ils sont absolument décisifs. Ou bien nous arrivons à élargir les connaissances et l'étendre à tous, on va perdre quelques guerres contre ces approches irrationnelles. Je n'ai pas besoin d'en nommer depuis la Terre pleine jusqu'aux guerres saintes qui sont causées par une éducation insuffisante des populations, par un mauvais usage, un mésusage de l'illuminisme qui privilégiait la raison, la science, le progrès et les valeurs humanistes. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur, qui nous a donné aussi une vision par rapport à la science, la technologie. Et j'ouvre maintenant une période de débat.
Et donc, ceux qui veulent faire un commentaire au niveau de nos conférenciers ou une question, ou partager, si vous voulez partager vos expériences de votre Parlement, si vous voulez partager quelque chose sur l'application, réalisation de l'ODD 9, on a une petite chose donc à vous dire. Le ministre doit sortir à midi. Et donc, s'il y a une question pour le ministre, s'il y a une question que vous voulez lui poser, que je vous demande donc de lui poser les questions. La France m'a demandé la parole et donc je passe la parole à la France.
Monsieur. Oui, bonjour, Frédéric Marchand, sénateur.
Bon dia, Frédéric Marchand.
Merci pour toutes ces interventions passionnantes qui permettent de mesurer effectivement que le Portugal est une référence qui compte aujourd'hui à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. J'ai été très attentif aux différentes interventions. J'aurais une question plus particulière à poser à monsieur.
I was very attentive to what was asked. About the textile dimension and textile sustainability, since you've mentioned and within the sustainability, you've mentioned a process regarding pollution, but you didn't mention the clothing of that textile. So that's why I'd like to mention a decision taken in France tomorrow, and hopefully will be followed in other EU countries within a decree on circular economy, France decided to ban that be thrown away, discarded, all that wasn't sold, because we know that some shops, distributors discard instead of recycling intelligently textiles. So France decided that this ban be effective by 2023. And this is, and it's to know, what is your opinion? Is it a strong problematic in Portugal? And I believe, yes, that it is, because Portugal, as France, as other EU countries, faces, there are many platforms like Amazon and other distributors that have no interest in recycling, in giving to association what hasn't been sold from the textile industry, prefers to discard them. There are challenges within the circular economy, so that we have a textile industry which is as much virtuous as possible.
Merci. Merci beaucoup de votre...
Thank you for your question. And indeed, yes, it's a question. It's not only the industry's responsibility. The industry is being prepared to transform this clothing. But we don't have systems. We don't have systems, sorting out systems. And at the end of the day, the clothing products are not prepared to be recycled at the end of the day, and this is the truth. Now, so technology, so we need new technology. We need new technology to make the clothes since the beginning. That is the raw material, and didn't have to be...
soit possible.
This be done this so that recycling is easy and is made possible. And in Portugal, we have different lines for research. That is so that we can bring together engineering, the design, and material technology, so that it's possible that at the end of that life cycle, that a piece be recycled, be assembled maybe by very different processes used today, namely the chemical processes will be much more adjusted to that purpose, to that transformation. And let me say that it's not the industry's sole responsibility, but let me assure you that in Portugal you have industries that are working to develop such technologies.
Grazie, engenheiro. Slovenia.
Thank you for the word, ladies and gentlemen.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le programme européen Horizon 2020 a mentionne que l'investissement, comme il y a des intérêts qui sont payés. Donc, la science doit être une priorité en Europe, et cela en Europe et pour le reste du monde. Mais j'espère et je recommande que l'investissement soit fait en sciences et technologies et doit être appliqué au niveau aussi des sciences sociales et des institutions opérationnelles et pour essayer de trouver des solutions qui demandera plus de stabilité pour le secteur. Et je suis convaincue que les sciences sociales peuvent contribuer et adopter de bonnes décisions politiques dans l'esprit d'Aristote, qui a compris que la stabilité et la justice doivent être assurés aux personnes dans la société. Donc, ça serait très utile de pouvoir initier de la recherche scientifique et technique comme il existe dans ces programmes dans le domaine de la physique. Et le résultat de cette approche peuvent contribuer à résoudre les défis relevés par cette complexité extrême et, au niveau des réalités sociales. Encore une fois, il n'existe pas une solution simple. Et les solutions simples sont offertes par les populistes. Donc, les sciences sociales ont des instruments très importants au niveau des grandes données, big data, neurosciences, pour que la société fonctionne mieux, qui malheureusement n'est pas utilisée au niveau du bien commun. Donc, utilisons ces instruments de la science et de l'innovation pour que la société puisse fonctionner mieux au niveau de la de ses réalisations. Et merci beaucoup.
Merci, Monsieur le député. Je crois que dans votre intervention, je reconnais trois aspects critiques. D'une part, notre souhait global de renforcer les programmes de recherche et innovation en Europe. Deuxièmement, la question toujours critique et présente dans toute société, aussi au Portugal, de l'ouverture et les rapports avec les sciences sociales, et ensuite les rapports entre les sciences sociales et les autres sciences et les cadres nationaux du contexte européen. Commençons par la première partie. Le Portugal, ensemble avec d'autres pays et la Slovénie, a une action claire dans le renforcement de l'évolution du programme cadre européen, ce qui est aujourd'hui l'horizon 2020 avec le futur programme numérique et le programme européen pour l'espace. Et en effet, dans la discussion des mois prochains, la définition des perspectives financières pour l'Europe pour la période 2021-2027, il est critique qu'on renforce les conditions et qu'on rende ce programme cadre effectif pour la recherche et l'innovation dans tous les domaines scientifiques et technologique et renforcer, comme était la décision du Conseil et du Parlement, outre le renforcement des ressources humaines, renforcer des zones claires que nous appelons des missions pour mieux engager le public et les personnes et les citoyens européens. Ces missions ont un but clair qui est de réunir toutes les aires scientifiques et les chercheurs avec les citoyens. Et dans ce rapport, les sciences sociales sont toujours particulièrement importantes. Dans le cadre portugais, et dans la deuxième partie de votre intervention sur les sciences sociales en particulier, nous avons toujours apporté une attention spéciale au financement de tous les domaines de la connaissance et aussi dans ce domaine des sciences sociales. Demain, par exemple, nous aurons à Lisbonne une grande conférence européenne organisée par l'Institut des sciences sociales précisément sur ce thème du développement durable. Et clairement, au-delà des questions scientifiques et technologiques, en particulier les trois technologies dont on a parlé M. Aline Oliveira, nous savons bien que d'une part, dans le domaine de la société du développement scientifique, mais aussi en ce qui concerne la mobilisation sociale et économique, il y a aujourd'hui des questions critiques qu'il faut que ce soit les scientifiques sociaux à traiter. Par exemple, en ce qui concerne cette histoire de recyclage du textile ou cette économie circulaire, qui sont de l'ordre institutionnel, l'ordre des citoyens, qui passent par un besoin d'approfondir les rapports sociaux et l'intégration avec les scientifiques sociaux. Mais aussi l'adoption du numérique et des technologies numériques et des formes qui surgissent, qui émergent de diffusion de l'information, notamment l'intelligence artificielle. Nous savons qu'il y a un entrecroisement de savoirs dans ce domaine et qui sont particulièrement critiques pour les sciences sociales. La troisième question que vous posez du rapport entre les sciences sociales et les autres sciences, que ce soit dans le contexte social ou européen, c'est toujours une conséquence des croisements des savoirs, des branches, et nous font penser de nouveau à l'importance des incentives et de la façon de les concevoir. Et je renforce aussi la question critique présente au cadre européen d'inclure parmi les incentives pour les grandes missions orientées par des objectifs concrets qui puissent réunir différents savoirs. L'économie circulaire, d'une part, mais le grand objectif européen pour 2030 de réduire à moitié les morts par le cancer inclut le développement de nouvelles thérapies, mais surtout la prévention de maladies comme le cancer, ce qui passe notamment sur le développement des rapports sociaux et le développement durable. Quand cette question est vue non seulement dans des aspects réactifs, mais proactivement, du point de vue individuel et institutionnel, exige de comprendre l'intervention des sciences sociales dans la conception de cette prévention des effets que nous ne voulons pas maintenir. Et donc, il faut maintenir ce dialogue entre les politiques que nous avons mises en œuvre au Portugal, qui reconnaissent clairement les différents savoirs et les différents domaines de la connaissance dans le cadre desquels se trouvent les sciences sociales et humaines et qui sont parfaitement reconnues. Merci.
Belgian.
Thank you.
Merci. Merci pour cette contribution qui a été très intéressante. Donc, j'ai deux questions. Une pour le ministre de l'Industrie et une autre question pour les deux autres conférenciers. La première question, par exemple, je fais partie du Parlement flamand et au niveau régional, nous avons ces clusters de spearhead. C'est un réseau entre différentes parties prenantes. On a trois parties prenantes, deux gouvernements et l'éducation, recherche-développement et l'industrie. Donc, si ces trois peuvent se rassembler, on peut être mis en commun, il y aura un avantage. Donc, la technologie, et c'est aussi une question ouverte, il y a toujours une solution au niveau des problèmes. Par exemple, quand le deuxième conférencier a parlé du recyclage dans l'industrie textile, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de triage, mais on peut toujours trouver la technologie qui fasse le triage et la collecte. Donc, l'innovation est faite dans des pays développés et ces applications sont faites dans les pays en développement. Par exemple, au niveau belge, on a une plateforme en ligne, on a une plateforme d'accès à l'agriculteur qui est appliquée en Afrique, une plateforme où les autres agriculteurs peuvent venir et disons il y aura des gains au niveau de mobilité et de transport en utilisant ces plateformes. Dans ce projet que nous avons et comment gérer qu'ils travaillent ensemble, et donc on a besoin de différents mécanismes au niveau des finances et du budget. Donc ma question, c'est comment vous gérez cet aspect. Ma deuxième question, c'est savoir d'autres conférenciers, de savoir, vous parlez de la technologie, vous avez parlé de l'innovation, vous avez parlé de l'éducation et donc la mise en commun. Et pour moi, c'est l'OK réalisme, donc la technologie peut résoudre plusieurs problèmes, mais il y a aussi certains dangers. Un exemple, au niveau de l'ODD 7 de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables, comment renforcer le secteur privé pour que cette ODD 7 soit plus durable, qu'il y ait plus de durabilité et que ça soit plus accessible. Par exemple, on a un nouveau produit, c'est de l'innovation, c'est très cher au début. Et après, par exemple, les pays développés en Europe, au niveau de soutien financier, nous avons ces certificats verts qui coûtent 20 milliards pour résoudre ce problème pendant 10 ans. Mais comme vous avez cette nouvelle technologie, il y a une production en masse et ces produits deviennent moins chers. Et vous pouvez trouver un panel solaire partout. C'est très bien, c'est très bon pour, c'est très bien. Mais en France, ils savent ce qui s'est passé avec les jaunes, qu'est-ce qu'ils payent, parce que cette innovation a été substituée, peut-être pas d'une forme correcte, mais payée par quelqu'un. Ça doit être payé par quelqu'un. Et après, il y a une discussion sur les coûts qui sont acceptables pour la société. Donc ma question, très bien, l'innovation peut aider, mais il y aura un moment où il y aura un coût pour cette innovation, et comment cette innovation sera acceptée, le coût soit accepté par la société. Il y aura un coût. Merci beaucoup pour tous ces détails. Au niveau de votre première question, et nous sommes d'accord à 100% sur trois lignes qui ont été incluses dans la stratégie portugaise. Premièrement, il faut diversifier le type d'institution, densification du territoire avec plus d'institutions, et troisièmement, de donner une priorité au dialogue nord-sud, renforcer ce dialogue et les relations Europe-Afrique. Au niveau de la première question, c'est très important de dire que le Portugal, pendant ces 3 ans, a revu son régime légal au niveau des institutions pour densifier le territoire et diversifier les institutions. Au niveau des centres et des unités de recherche et développement et le renforcement de ces unités que nous appelons nous appelons laboratoires associés, nous avons renforcé de nouvelles institutions qui a trait à la coopération avec différents acteurs, les laboratoires collaboratifs. Nous avons 21 laboratoires dans notre territoire, dans différents domaines, incluant au niveau d'aspects liés à l'économie circulaire avec des acteurs académiques, l'industrie, les municipalités, qui discutent différents aspects au niveau de la montagne, la production d'algues dans l'Algarve et d'autres dans les côtes de l'Atlantique, la biomasse et l'énergie circulaire dans les forêts. Donc, on pourra vous présenter, si vous le voulez, même si vous pouvez, si vous voulez visiter ces laboratoires collaboratifs et ces réseaux et camps. Il y a des centres d'interface technologique qui ont été mentionnés par l'ingénieur Blaszkowski, comme vous l'avez dit, pour diversifier le type d'institution et densifier le territoire et que cela puisse inclure différents acteurs, aussi comme une forme de créer des emplois associés à la connaissance. Au niveau des relations Europe-Afrique et le cas que vous avez mentionné, c'est très important et je pourrais mentionner d'autres aspects critiques, par exemple les inondations au niveau du changement climatique en dehors d'autres aspects ou ce qu'on a vu dans les derniers mois aussi au niveau de l'inondation au Mozambique. Donc, on a développé, entre autres, et en outre de l'attention que le gouvernement et le Premier ministre a pu donner pour orienter la future présidence de l'Union européenne.
Dans le cadre du développement durable, nous avons aussi développé le Centre international de la recherche atlantique avec l'inclusion de la Nigérie, de l'Afrique du Sud, au-delà des pays de langue portugaise, en considérant l'espace d'interaction, espace terre-océan. Finalement, la deuxième question sur l'écoute du contexte. Je crois qu'il n'y a qu'une façon de les approcher, c'est de comprendre la nature et le besoin de renforcer l'investissement public en complémentant l'investissement public avec le privé, mais naturellement, dans des domaines comme celle-là, où la nature de l'intérêt public et de l'intérêt des institutions publiques est impossible d'être fait sans le renforcement à l'échelle globale, nationale et locale de l'investissement public, de façon à assurer les frais de contexte dont vous avez parlé, qui est ce qui a toujours été une position claire au Portugal. Nous avons développé une stratégie pour 2030, dans les domaines d'innovation et de la recherche, nous avons un objectif clair de multiplier par 4 l'investissement privé en doublant l'investissement public. Donc, le besoin d'assurer toujours la chose publique et l'investissement public pour calculer les intérêts et surtout les rapports sociaux de ce qui représente aujourd'hui le développement durable. Un commentaire rapide à la deuxième question. Ma position va un peu plus loin que l'éco-réalisme. C'est une position où on reconnaît le besoin d'engagement, de compromis entre l'environnement et le fait qu'on ne peut pas vivre sans technologie et sans le type de vie que nous menons maintenant. Je vais un peu plus loin, bien que ce soit cohérent avec l'éco-réalisme, je vais un peu plus loin avec un argument que le seul espoir, c'est le développement technologique. Si nous ne faisons pas un développement technologique correct et adapté aux problèmes, les problèmes vont empirer et n'auront plus jamais de solution. Il y a toujours des problèmes. Il y a les impacts négatifs des nouvelles technologies qui seront développées et ceci est une question qu'on ne peut pas ignorer. Les moteurs de combustion interne ont résolu un grand problème dans les villes. C'était trop de chevaux dans les villes, trop de fumier dans les villes, ce qui était la grande pollution. Et maintenant, nous avons les voitures électriques et les batteries qui aident à résoudre un peu la pollution dans les villes, mais qui a des impacts environnementaux. Et si on analyse la vie des voitures électriques, le bilan n'est pas aussi positif qu'on s'y attendait. Et donc, nous pourrons être... les pays développés pourront être en train de payer des développements technologiques dont tout le monde va bénéficier. Il peut sembler difficile de justifier, mais à mon avis, cela fait partie de notre devoir. La différence entre les niveaux de vie des pays développés de l'Europe, des États-Unis, du Japon et d'autres pays est si grand qu'une petite contribution, un petit apport du PNB des pays développés peut avoir une valeur immense pour le reste du monde. C'est donc un devoir, un impératif moral. Et notre société doit être convaincue que pour un petit prix qu'il nous faudra payer, parce que nous contribuons d'une façon démesurée à l'investissement dans de nouvelles technologies, sera compensé à l'avenir parce que nous aurons une société plus égalitaire avec moins de guerres, moins de réfugiés, moins de problèmes environnementaux. Et je crois que la société du premier monde ne sont pas suffisamment généreuses. On ne demande pas que vous donniez 10% de vos revenus, mais 2% auront déjà un énorme impact. Et je crois que la société capitaliste et la société de marché dans laquelle nous vivons et qui nous a apporté des bénéfices, nous a aussi apporté un égoïsme excessif que nous devons tous de combattre.
Ce que je voulais dire a déjà été dit, ce que j'allais dire, mais j'aimerais ajouter le suivant. J'ai parlé de l'hypocrisie au niveau de ceux qui achètent, qui veulent que les sociétés soient justes avec leurs travailleurs, qu'il n'y ait pas d'un impact négatif dans l'environnement et de diminuer les prix. On partage les technologies avec les pays en développement. Et on veut obtenir des produits qui utilisent cette technologie, mais produire à un coût qu'on ne produit pas dans nos pays. Et voilà, et cela doit avoir, il doit y avoir une forme de paiement pour ces pays. Donc la contribution qu'on fait avec les pays qui sont moins favorisés n'est pas d'aussi altruiste comme vous le pensez. Et il faut faire cela d'une façon objective. C'est clarifier ce qui est une aide et ce qui est un intérêt. Et j'ai parlé de ces markups. J'ai parlé des markups. Et c'est invraisemblable. Et c'est nous qui prenons ces technologies, prenons nos technologies dans d'autres pays. Je souligne ce que Lindo a dit. Nous avons cette obligation, nous l'avons. Nous utilisons les terrains, les minéraux, etc. Et cela pour qu'on puisse bénéficier. C'est la responsabilité des pays qui sont plus développés pour que les gens puissent avoir une meilleure condition de vie, nous et eux, pour pouvoir faire ceci. La Suède. Merci beaucoup. Merci pour ces points très intéressants. Et j'aimerais mentionner ce que Lindo a dit quand il a conclu son discours sur les problèmes sociaux qui seraient un risque de résultat au niveau de la technologie et de l'innovation et de son développement. Parce que dans nos pays, parce que nous sommes très similaires au niveau des aspects d'innovation, technologique. Donc, on veut ce standard et il y a certaines années, il y a une enquête au niveau d'attitude. Ils ont présenté une enquête que la plupart des gens dans le monde pensent que les robots ordinateurs vont dominer leurs emplois. Et cela, cela peut même détruire la société. On le voit dans la plupart des pays. Peut-être cet exemple qu'on a dans les pays développés, ce qui a été très important au niveau de la démocratie, c'est la liberté individuelle. Et maintenant, c'est très important. Si on parle des États-Unis, qui est un exemple, les États-Unis ont changé parce qu'ils avaient une liberté individuelle où l'individu était plus important. Et maintenant, c'est différent, c'est de construire des frontières. Qu'est-ce qui va se passer avec tout cela? Je pense que c'est très important comme parlementaire de nous concentrer sur ces problèmes, donc que les personnes, ce problème lié aux personnes, et comme politiciens, on sait que c'est très important de travailler avec l'innovation, des développements technologiques, mais les gens sont vraiment préoccupés. Les gens se demandent, est-ce qu'ils vont avoir un travail dans l'avenir? Est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir un salaire, prendre soin de leur famille, etc. Donc, ce sont vraiment des questions très importantes qu'on doit adresser comme politicien, et on doit se concentrer aussi au niveau du développement technologique, mais il faut aussi garantir qu'il y aura d'autres travaux et qu'on puisse garantir qu'il y aura une définition au niveau des rôles et pour garantir aux gens qu'ils puissent changer de travail. Quand la société est en train de changer aussi rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous parlons et les gens ne comprennent pas vraiment ce que les politiciens fassent et quelles sont les décisions. Les gens ne comprennent pas que nous adressons leur avenir et comment est-ce que on peut joindre, comment les gens peuvent se joindre à nous et croire en l'avenir et pas ce qu'on voit dans d'autres pays, par exemple, dans les 12 plus ou dans d'autres pays dans le monde. Parce que ne pas croire dans l'avenir change, il y a un changement au niveau de la démocratie et de la construction de notre société. Merci beaucoup au niveau de cette question. Je ne me suis pas concentrée sur les topics spécifiques au niveau des robots et d'autres, même si c'est très près de ce que je fais.
Human jobs by technology.
En général, le remplacement de l'emploi par des technologies est quelque chose qui préoccupe la société depuis plusieurs années. Telle que l'introduction de la machine à vapeur, par exemple. Cette fois, c'est différent parce que nous avons des systèmes qui peuvent en effet réaliser beaucoup des tâches qui exigent de l'intelligence humaine. Et pour, donc, c'est une possibilité. Mais cette préoccupation est surtout causée par une fallacie qui est qui il y a un travail qu'il faut qu'il soit fait par humain ou par des ordinateurs. Nous savons que cela n'est pas un problème, c'est un faux problème. Et de nouveaux postes d'emploi seront créés par les nouvelles technologies aussi, mais il faut en effet que nous travaillions pour assurer que l'emploi ne manquera pas, même si ce n'est pas exactement les emplois qu'on souhaiterait. Ça va que les emplois peut-être ne seront pas aussi bien payés, seront concentrés dans certaines catégories, dans certaines entreprises. Il faut pas penser à la redistribution. Et il y a une réponse que, oui, il nous faut s'assurer que la croissance économique qui découle des nouvelles technologies sera aussi redistribuée pour que tous vivent mieux. Mais pour que tout le monde vive mieux. Et c'est ici une question clé. L'autre, c'est l'enseignement, l'éducation, surtout l'éducation à long terme, tout le long de la vie. Et je crois que, pour moi, le point clé, c'est la redistribution. Il nous faut être sûr que la société capitaliste qui a créé beaucoup d'améliorations dans la société, améliore en fait la vie de tout le monde. Et tant dans les grands ou les petits pays de l'Union européenne, pour que tout le monde puisse avoir une partie du gâteau et que personne ne soit laissé en arrière. Les politiques fiscales, les politiques de redistribution, les politiques d'emploi, tout cela est important et il nous faut assurer que ceci est communiqué au peuple pour que le peuple ne passe pas sa vie à se préoccuper sur l'avenir de son travail et de son emploi. Et c'est la responsabilité de nous tous, mais surtout votre responsabilité à vous qui êtes au Parlement de vos respectifs pays. Et je crois que au Portugal et en Europe, nous penchons peut-être trop souvent sur les problèmes à court terme et il faut penser aussi à moyen et à long terme.
Okay. Thank you very much, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par remercier le Parlement de votre contribution, de votre apport à cette discussion. Ma contribution est un peu plus générale. En ce moment, je n'ai pas de questions, mais j'aimerais de toute façon apporter quelques idées au débat. Le point focal de notre discussion, c'est considérer l'industrie, l'innovation et les infrastructures comme un moteur du développement. Et je crois réellement que certaines composantes y compris ces questions, sont très importantes. Il faut que je m'atteigne au principe de la durabilité. L'objectif est le bien-être de nos peuples. Ça, c'est ça, la prospérité. Et c'est une condition essentielle que nous devons préserver. L'économie est seulement un outil pour contribuer à la durabilité. Nous avons un problème et un défi. Notre sagesse commune, notre mémoire commune de toutes ces pratiques, nous devons propager nos bonnes pratiques, nos meilleures pratiques à tout le monde. Et et nous devons chercher de nouvelles méthodes qui seront utilisées au cours de ce siècle. Le peuple, les nations, les régions sont au cœur du développement. Et de ce point de vue, l'innovation est réellement une question clé en tenant compte du fait qu'il faut trouver de nouvelles solutions pour la décarbonisation, par exemple, pour l'agriculture durable, pour les ressources maritimes, pour la solution des gaz à effet de serre. Et il nous faut savoir qu'il faut accélérer nos efforts communs en faveur de l'innovation pour résoudre ces problèmes qui sont mondiaux. Et il a servi vite une des conditions qui ne sont pas très bonnes. Toute la société est responsable dans la création d'une attitude généralisée pour avancer avec une économie durable et technologique. Il faut améliorer notre société et moderniser les entreprises. Nous pouvions avoir un impact positif aussi sur les autres pays. Il y a aussi les ressources humaines. Le partage d'une connaissance commune est important. Et j'aimerais aussi encore dire quelques mots sur les infrastructures, qui sont un cadre dans lequel nous vivons. Et la discrétion devient partie de la sécurité. L'Hongrie est devenue membre de pays. Il n'y a pas des infrastructures modernes qui incluent des systèmes de gestion et à ce temps-là, la durabilité, tant du point de vue économique comme du point de vue écologique et environnemental, est fondamentale. Nous avons et nous devons travailler ensemble pour augmenter la durabilité et la sécurité de ces systèmes. Et c'est un grand défi pour la science, pour les affaires et pour la société, pour une économie verte. Merci de votre attention.
Merci l'Hongrie pour vos contributions. Une question de la France qui a demandé à parler.
Voilà. Merci beaucoup tout d'abord de votre invitation et de ces interventions nourries et très intéressantes. Moi, je voulais revenir sur l'intervention de Monsieur le ministre concernant l'énergie et tout d'abord vous féliciter de vos bons résultats sur le soutien des ENR en matière de journées consécutives en totale autonomie. Ça m'appelle plusieurs questions. Nous avons au niveau de la France voté une loi en 2015 sur la transition énergétique et la croissance verte qui s'est donné des objectifs ambitieux en matière de mix énergétique. J'aurais voulu souhaiter savoir quelle était l'évolution de votre mix énergétique. Vous avez soulevé que, comme la France d'ailleurs, que l'hydroélectricité était finalement un pilier majeur dans cet équilibre du mix, de par sa capacité de stockage et flexibilité qui permet l'intégration sur les réseaux de toutes les énergies renouvelables qui aujourd'hui sont majoritairement intermittentes et qui ont besoin d'un outil de stockage important. La deuxième question, c'est sur l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale des projets d'énergie renouvelable. Nous butons en France et dans de nombreux pays pour faire en sorte que les citoyens s'emparent de ces projets, en soient les acteurs, pour permettre une acceptation sociale importante. comment ça se passe au Portugal. Et d'ailleurs, j'interroge également l'ensemble des collègues ici à ce sujet. Concernant les mobilités, nous sommes en ce moment au Parlement français sur la loi mobilité. On parlait tout à l'heure de la question du transport aérien. Beaucoup de parlementaires français s'interrogent sur des fiscalités pesant sur ces transports qui sont très consommateurs et très pas développement durable pour faire simple. Quelle est dans votre pays cette réflexion, où en est-elle sur l'ensemble des mobilités? Et puis quelques mots sur la technologie que vous avez largement évoquée, qui est nécessaire au développement durable. Mais la question de la redistribution que vous évoquiez tout à l'heure est effectivement aussi un enjeu extrêmement important quand on va aller vers forcément une réduction de l'emploi, qu'on va forcément laisser sur le chemin des citoyens qui seront un peu les délaissés du digital et du numérique pour différentes raisons. Est-ce que l'intervention de l'État ne devient pas à ce stade nécessaire? Donc tout est finalement un équilibre entre le développement de la technologie et la durabilité. Et puis la dernière question, c'est sur, vous avez évoqué, monsieur, la manipulation des données de manière plus intelligente aujourd'hui. On a le développement des blockchains qui va être largement favorisé, mais en même temps, ce développement nécessite beaucoup d'énergie et de consommation d'énergie très importante. Est-ce qu'on n'est pas là aussi devant un paradoxe quand on sait que l'énergie aujourd'hui est un bien finalement de première nécessité? Merci.
Une question finale, une intervention finale de la parole et puis de.
On va écouter la Servi et après je passerai la parole aux participants de notre panel.
Servi.
Honorable Chair, dear colleagues.
Chers collègues, je vais parler serbe et vous avez la traduction. En ce qui concerne l'objectif 9, l'innovation joue un rôle très important dans le développement économique et donc l'innovation est devenue une priorité si nous voulons atteindre les objectifs du développement durable. La Serbie a de bonnes conditions de développer une économie basée sur l'innovation et l'intérêt particulier est mis sur la numérisation comme grand potentiel de croissance et compétitivité du pays. C'est pourquoi le gouvernement serbe a rendu la numérisation comme l'aspect le plus important et la priorité la plus importante de notre société. L'innovation en 2011, nous avons introduit le Parlement, le e-Parlement, le Parlement électronique, et plusieurs années plus tard, ce Parlement a été reconnu comme l'un des plus ouverts et les plus transparents dans la région. En 2017, publié par l'Europe et par les Nations Unies, nous avons des mentions au Parlement serbe, qui sont un exemple de bonnes pratiques. Nous aussi attribuons une grande importance à la formation et aux technologies d'information. Pour beaucoup de jeunes, travailler dans le secteur de l'information est devenu un point de la question de $1 million. La Serbie était un pays surtout agricole, mais maintenant on est devenu un pays aussi exportateur, non seulement de produits d'agriculture. Combien notre hôte, le Portugal, gagne en exportant des produits de logiciels. Merci. J'aimerais passer la parole au ministre pour qu'il puisse répondre. Très rapidement, surtout aux questions que la députée française nous a posées. La transition énergétique est une propriété du groupe et du gouvernement, de telle façon que le ministre de l'Environnement est aussi le ministre de la transition énergétique. Et la création d'un ministère de l'Environnement et de la transition énergétique au Portugal montre la priorité du gouvernement face à des actions qui ont été menées pour conjuguer la transition énergétique avec les questions environnementales, que ce soit au niveau de la production d'énergie, mais surtout dans la mise en œuvre de mesures et d'un appareil légal soutenant l'économie circulaire. Les questions que vous nous avez posées sont particulièrement critiques, notamment en ce qui concerne l'intégration du mix énergétique qui a été fait au Portugal surtout par le biais de la croissante utilisation de sources d'énergie hydroélectriques et éoliennes. L'inclusion du soleil croît aussi. Aujourd'hui, il y a un plan très clair pour l'intégration des énergies solaires, mais surtout leur intégration décentralisée au niveau du consommateur à des coûts particulièrement hauts, et cela a rendu difficile leur intégration. Et les bons résultats du Portugal ont été obtenus par le biais du mix énergie éolique et hydroélectrique, éolienne et hydroélectrique. Aujourd'hui, le Portugal est un exportateur clair d'énergie, notamment associé à ce mix, au-delà de l'adoption croissante de sources centrales de l'énergie solaire, surtout au sud du pays. La concentration urbaine et les transports dont vous avez parlé ont une époque spécifique en ce qui concerne la mobilité urbaine par le biais d'une diversification des moyens, des transports publics par exemple, aussi la mobilité électrique. Et c'est pourquoi les incentives qui ont été créés pour l'acquisition de véhicules électriques et en général l'adoption de réseaux numériques et de systèmes numériques intégrés pour gérer la mobilité dans les villes. C'est un système complexe. Outre la composante technologique, a surtout une dépendance des attitudes, des pratiques et de la vie quotidienne dans les cadres urbains, qui est toujours une évolution graduelle. Et il y a des cas aussi au Portugal de grands succès, notamment dans les villes principales, mais aujourd'hui un réseau de nouveaux systèmes urbains qui utilise des systèmes numériques pour des systèmes décentralisés de mobilité et en diversifiant le réseau des infrastructures. Dans ce domaine, l'initiative nationale a une orientation claire pour mobiliser tous les citoyens à l'inclusion au-delà des questions d'éducation, d'enseignement et de la spécialisation et de l'entrée au marché du travail. C'est pourquoi cet éventail diversifié où le numérique est un facteur critique, notamment dans les milieux urbains. Je m'excuse, je dois m'absenter, je ne pourrai pas assister aux autres questions, mais il me faut partir car j'ai une autre réunion exactement à côté. De toute façon, je vous félicite par ce débat cette matinée très intéressante.
Maintenant, la parole au professeur. Une question très rapide au niveau d'un point qui a été relevé sur le blockchain. C'est une technologie numérique pour adopter des registres et comme tel un potentiel pour créer de la valeur et d'interrompre certains secteurs. Mais ce n'est pas une technologie qui va révolutionner toute la société. Le blockchain a une application limitée au niveau de 2 ou 3 applications. La solution du blockchain qui utilise le CPU pour résoudre un problème de consensus, c'est une des solutions qui est particulière au blockchain. Ça peut fonctionner sans cela, sans consommer de l'énergie. Il y a d'autres façons de résoudre ce problème qui sont plus pratiques. La résolution basée sur la consommation de CPU, c'est une approche qui est populaire à cause des monnaies numériques, mais ce n'est pas la seule. Le blockchain, tel n'est pas un instrument essentiel pour la transformation numérique, c'est un des instruments, et même si cela sera une application importante, la consommation d'énergie peut être contournée, on peut obtenir un consensus qui soit plus efficace, et donc l'approche au niveau de la consommation CPU va être condamnée et ne sera plus utilisée à l'avenir. Donc on va conclure ce panel au niveau de l'ODD 9. On aimerait remercier à tous les participants, remercier l'ingénieur avant aller déjeuner, qu'on puisse prendre une photo de groupe, notre photo de groupe. Et j'aimerais remercier votre participation. Monsieur le Président.